Cela fait maintenant un peu plus d'un mois que le 25e anniversaire de Disneyland Paris a touché à sa fin, et il est donc temps de faire le bilan de cet événement étincelant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous écoutez bien le premier épisode de la saison 2 de DLP Podcast, une émission proposée par Daily Disneyland. Alors place à la magie! Et c'est donc encore une fois après une longue absence que je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le retour de DLP Podcast, et pas n'importe quel retour puisque l'émission revient pour sa saison 2. Alors pourquoi une saison 2 aussi vite? On va faire le point très rapidement avant de débuter le podcast. Tout d'abord, il faut donc savoir que si l'absence a été aussi longue, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord à cause de la reprise des cours, et ensuite, et ça c'est la raison principale, vous allez le voir, car le format original de DLP Podcast ne me plaisait plus, et je n'arrivais plus à prendre le temps et à avoir l'envie de créer des podcasts. Et tout ça, c'était dû à la rubrique des news en vrac qui commençait à me convenir de moins en moins. Je dois vous avouer que préparer un podcast, préparer des news, faire une liste de news, ça prend quand même pas mal de temps. Et le plus énervant dans tout ça, c'est que ce sont des news que vous pouvez retrouver un peu de partout, donc que ce soit sur Twitter, YouTube et même dans d'autres podcasts qui le font très bien. Et donc ça commençait un peu à m'énerver de préparer toute cette partie-là des news en vrac qui au final ne vous sert pas à grand-chose et alourdit le podcast au final. Ça alourdit la préparation comme l'écoute du podcast. On s'est quand même retrouvé avec un dernier épisode d'1h40, ce qui est quand même assez long et improbable comme durée de temps pour le podcast. J'ai donc décidé d'alléger le podcast pour cette saison 2. En supprimant totalement la partie des news en vrac. Donc ce qui va se passer, c'est que désormais, DLP Podcast ne sera plus, ne fonctionnera plus que par dossier, il n'y aura plus de news dans ce podcast-là. Ce qui fait aussi que le podcast n'est plus mensuel, mais paraîtra quand j'ai envie de créer un épisode, tout simplement. Donc quand une idée de thème me vient à l'esprit, quand un dossier me vient à l'esprit, j'ai vraiment plus cette envie-là de me bloquer à cause des actualités. Donc pour récapituler, DLP Podcast rentre désormais dans sa saison 2 sans news en vrac, avec uniquement des dossiers où on parlera de différents thèmes en rapport avec l'actualité ou non. C'est ça aussi qui va être intéressant, ça va être un peu de sortir de ces clous tout le temps de l'actualité pour parler de choses dont on parle peut-être un peu moins souvent. Donc voilà, des podcasts qui ne seront plus mensuels mais qui apparaîtront quand les idées me viendront et quand j'aurai le temps de les créer. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour cette saison 2 du podcast. Je vous fais une dernière petite annonce et on rentre dans le vif du sujet. J'ai effectivement une dernière annonce bien sympathique à vous faire parvenir, car nous avons décidé avec Sam de la chaîne YouTube Disnam, le lien sera bien évidemment en description de ce podcast, de créer un événement, et non pas un concours, je dis bien un événement sur Twitter qui se nommera les Thunder Mesa Stories. Alors qu'est-ce que c'est que les Thunder Mesa Stories? C'est un événement sur Twitter, comme j'ai déjà dit, qui est là en l'occasion de la réouverture de Phantom Manor en 2019, et qui va vous permettre de proposer une création en rapport avec Thunder Mesa. Donc ça peut être une BD, ça peut être quelque chose d'écrit, ça peut être un peu tout, hein. Ça peut être une musique, une série audio, quelque chose de filmé, ce que vous voulez, une création autour de Thunder Mesa. Vous avez juste à la poster sur Twitter avec le hashtag Thunder Mesa Stories, et ça permettra un peu à tout le monde de découvrir les histoires des uns et des autres autour de cette ville. Parfois, on entend quelques personnes prétendre connaître la véritable histoire de Phantom Manor et de Thunder Mesa. Mais ce qu'on a voulu faire en créant ce concours, c'est montrer que chacun crée sa propre histoire à partir de ses propres interprétations. Et donc, ce que ça va permettre, c'est vraiment à chacun de pouvoir découvrir les histoires des autres, de faire en quelque sorte un espèce d'espace où tout le monde va pouvoir proposer sa création. Et vous avez donc jusqu'à la réouverture de Phantom Manor pour participer, suite à quoi nous ferons certainement un live pour découvrir ensemble les différentes créations autour de Thunder Mesa et pour voir partager vraiment cette passion-là des belles histoires qui nous sont racontées à Disneyland Paris. Mais trêve de bavardage, il est désormais temps de rentrer dans le vif du sujet et de faire un bilan du 25e anniversaire de Disneyland Paris. Alors vous allez certainement me dire que c'est un sujet qui a déjà fait beaucoup parler de lui sur YouTube il y a quelques temps de cela, quand l'anniversaire s'est terminé, mais ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin que de simplement revenir sur les événements de cet anniversaire, puisqu'on va essayer d'élargir notre champ de vision sur l'année 2017-2018 en général, pour voir un peu ce qui est arrivé en parallèle de cet anniversaire avec la nouvelle dynamique qu'a pris le parc. Pour cela, nous allons donc procéder en 10 points. La première partie du podcast se concentrera plus précisément sur le 25e anniversaire en lui-même, avec ses shows et ses décorations. Et ensuite, en deuxième partie de podcast, on s'intéressera à tout ce qui est arrivé, comme je vous l'ai dit, autour de ce 25e anniversaire et de ces années 2017-2018. La deuxième saison de DLP Podcast, ça commence maintenant. Mais avant que je vous donne mon avis, on va commencer par une petite remise en contexte et se rappeler, eh bien, qu'avant le 25e anniversaire, en dehors des anniversaires, il se passait pas grand chose sur les parcs, et c'était donc logiquement les périodes les plus attendues par les fans, et notamment le 25e anniversaire, qui, dès sa promotion, dès vraiment les premières annonces, ont commencé, je pense, à attirer pas mal de monde, notamment via l'arrivée de Star Tours, l'aventure continue, enfin j'ai envie de dire, on avait pu suivre les travaux sur Twitter, donc rien que ça, pouvoir suivre les travaux d'un chantier, ça crée un espèce d'engouement autour de l'arrivée d'une saison pour la communauté. On avait également l'arrivée d'une toute nouvelle parade, puisque je vous rappelle que la Disney Magic and Parade, c'était un recyclage de la parade des 15 ans, qui était déjà présente, avec seulement un changement de deux chars et de la musique. Donc voilà, on avait vraiment besoin de quelque chose de frais. On a connu une grande période creuse sur le parc. Et même s'il n'avait pas commencé, on pressentait déjà que cet anniversaire allait être un peu différent avec justement cette arrivée de Star Tours 2 et toutes les histoires de rachats qui ont commencé à émerger et qui ont fini par aboutir. Et après de longs mois d'attente, c'est donc enfin le 25 mars 2017 qu'a eu lieu la grande inauguration des 25 ans de Disneyland Paris sous les yeux de la presse. Et on va donc de suite aborder le premier point de ce podcast qui concerne un avis général, un avis global sur l'anniversaire et sur les célébrations des 25 ans du parc. J'ai donc posté maintenant, il y a quelques temps sur Twitter, une série de sondages qui va me permettre à chaque fois de vous donner un avis extérieur au mien durant ce podcast. Et le premier sondage était « Êtes-vous satisfait des festivités du 25e anniversaire de Disneyland Paris en général, show, décoration, etc. ?» Vous êtes 86% à avoir été satisfait par cet anniversaire et 14% à ne pas l'être. Et si je devais donner un avis général, je dirais que je me situe plus dans les 86% qui ont apprécié cet anniversaire, car bien qu'il y ait pas mal de choses à revoir et à dire, l'impression générale que nous a donné cet anniversaire est plutôt positive dans sa globalité, car ce que je retiendrai surtout de cet anniversaire-là, c'est vraiment que Disneyland Paris est de retour dans le jeu. Disneyland Paris est véritablement de retour. Disneyland Paris n'est plus inactif. On a désormais pas mal de nouvelles infos qui arrivent au fur et à mesure. On voit que ça bouge. On a eu quand même un plan de réhabilitation qui a remis le parc à neuf. On a eu l'arrivée de Star Tours, l'aventure continue. On a eu pas mal de choses comme ça, une nouvelle dynamique avec pas mal de soirées, un renouvellement des saisons. Maintenant, on a quasiment plus de temps mort pendant toute l'année sur le parc. Ça, c'est quand même un bon point. Donc ça, c'est vraiment dans la globalité qu'on peut dire que c'est un bon anniversaire. Après, si je dois vraiment me concentrer sur les points uniquement liés à l'anniversaire en lui-même et aux festivités, c'est-à-dire les parades, les shows, Là, je dois avouer être un peu plus mitigé dans le sens où, vous allez le voir de suite, j'ai pas totalement été satisfait par les prestations proposées durant cet anniversaire, donc Disney Illumination, la Disney Stars on Parade ou même, encore pire, j'ai envie de dire, les décorations qui étaient présentes durant les festivités. Donc tout ça, ce sont des points plutôt négatifs, mais là, comme on parle vraiment de la globalité des choses, je dirais que c'est quand même un anniversaire qui a été rafraîchissant, différent des autres, et positif pour l'avenir du parc. On va donc rentrer un peu plus dans les détails en commençant par les décorations. Et oui, les décorations, c'est un peu une tradition pour chaque anniversaire du parc. Chaque anniversaire a son propre code couleur, chaque anniversaire a ses propres décorations et ses propres costumes pour les personnages. Je vous ai donc demandé sur Twitter quel était votre avis à propos des décorations de cet anniversaire-là. Vous êtes 59% à les avoir appréciées, 16% à ne pas les avoir appréciées et 25% à les avoir appréciées au début, mais pas à la longue au final. Personnellement, j'ai toujours eu un peu de mal avec ces décorations et notamment à cause du code couleur bleu et argenté. Alors, ce sont des couleurs certes de fête, mais je ne sais pas si c'était vraiment le meilleur choix à faire pour un anniversaire à Disneyland Paris parce que paradoxalement, je trouve que ce sont des couleurs assez tristes et que ça rend assez triste au final sur le parc. Vraiment voir un Main Street bordé de fleurs bleues aux fenêtres et un Central Plaza entièrement bleu et argenté, je trouve que c'est quand même assez maussade comme couleur. Donc se coltiner ces couleurs-là pendant 2 ans, ça a déjà été compliqué. Mais en plus, ils nous ont mis des fausses fleurs un peu de partout dans le parc. Et ça, vraiment aussi, je trouve que ça casse un peu la magie dans un sens où on pouvait vraiment voir que c'était de fausses fleurs qui étaient tout simplement bonbonnées de couleurs soit argentées, soit bleutées. Et ça, encore une fois, je trouve pas ça top. J'aurais préféré, même si c'est beaucoup plus dur pour l'entretien, qu'ils nous plantent de véritables fleurs, comme ça s'est refait maintenant que l'anniversaire est terminé. Donc ça encore, c'est un point négatif. Autre point négatif pour moi au niveau de la déco, ce sont les décorations de luminaires. Alors je ne parle pas des fées clochettes qui étaient vraiment placées sur les lampadaires, qui elles étaient vraiment un très bon ajout, c'était vraiment très réussi, je trouve. Non, je parle vraiment de ces espèces de gros ronds avec marqué 25 pour le 25e anniversaire dessus et qui étaient placés sur tout simplement les lampadaires du parc. Et ça, je trouve ça très grossier comme décoration. C'était assez imposant, pas très joli à voir. Alors que si on compare par exemple avec ce qui s'était fait dans le même genre pour le 20e anniversaire du parc. Et eh bien là, c'était beaucoup plus élégant. On avait quelque chose de doré, de plus petit et de vraiment de plus fin. Quelque chose de mieux réussi que ces espèces je ne sais pas comment les décrire, de gros ronds décoratifs sur les lampadaires. Donc ça, c'était vraiment pas quelque chose de top. Après, qu'est-ce qu'on a eu d'autre en termes de décoration? On a eu les statues sur Central Plaza qui, elles, en revanche, étaient réussies avec un espèce de reflet miroir, donc argenté. Sur les statues, vous pouvez d'ailleurs aller voir sur Twitter, j'avais posté quelques photos de ces statues-là, celles-là sont réussies, mais tout ça s'est noyé vraiment dans ce code couleur-là qui, je trouve, ne va pas avec l'anniversaire. Donc voilà, personnellement, pour ce qui est de ce sondage-là, je ne suis pas forcément en accord avec l'avis général, j'ai envie de dire, puisque vous êtes quand même 59% à avoir apprécié les décorations. Ça n'a pas été mon cas, et on va donc de suite passer au deuxième point pour voir si mon avis est un peu plus enjoué. Parlons maintenant des deux nouveaux shows qui sont arrivés au Castle Stage, donc au théâtre du château, et qui sont L'étincelante valse des princesses et Mickey présente Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Donc je vous ai demandé votre avis à propos de ces deux shows sur Twitter comme d'habitude. Vous êtes 63% à les avoir trouvés super, 29% à les avoir trouvés sympas mais sans plus, et 8% à ne pas les avoir aimés. Alors pour ce qui est de mon avis, je dirais qu'ils sont vraiment bien dans ce qu'ils nous promettent en fait. C'est-à-dire que ce sont des shows qui n'ont jamais eu l'ambition d'être de gros shows. Les shows du théâtre du château ont toujours eu une ampleur assez moindre. Et ces shows-là vraiment remplissent leur contrat avec brio, je trouve, puisque on a notamment Mickey présente Joyeux Anniversaire à Disneyland Paris, qui est une petite surprise, puisque on retrouve une chanson tout d'abord, ma foi, très sympathique. Et surtout, quelque chose qui m'a surpris, c'est que c'est un show qui fait hommage à tous les lands du parc. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Généralement, on se concentre vraiment purement sur les personnages. Mais là, on a aussi cet aspect vraiment hommage au parc, ce qui est parfaitement en rapport avec l'anniversaire. Et on va avoir un tableau par land. Et ça, je trouve ça génial. Chaque land a son personnage approprié. Donc c'est un show qui nous permet de voir un maximum de personnages avec une chanson très chouette et en plus un hommage aux Landes. Tout ça avec pas mal de représentations par jour. Franchement, je trouve que c'est un show qui remplit le contrat avec brio. Mais le show qui a fait le plus parler de lui sur ces deux shows-là, ben, c'est l'étincelante valse des princesses. Car il y a eu tout un engouement qui s'est créé autour de ce show. Il y a eu pas mal de personnes qui se sont vraiment mis à adorer ce show, à faire pas mal de représentations, à vouloir assister à la dernière représentation. C'est vraiment un show qui a suscité l'engouement. Je dois avouer que je comprends pas totalement pourquoi, pour le coup, on a eu vraiment une telle hype autour de ce show. Alors certes, on retrouve les princesses dans de nouvelles robes en plus qui sont très belles et dans une mise en scène qui est vraiment pas mal du tout, surtout à la tombée de la nuit apparemment. Alors personnellement, je l'ai pas réellement fait à la tombée de la nuit, c'était un peu plus tôt, mais le spectacle en lui-même est bon, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. On a de bons enchaînements musicaux, pour les enfants c'est parfait, ça permet à chaque fois ça leur permet à chaque fois de deviner quelle est la princesse qui va arriver, etc, etc. Donc vraiment, j'ai rien à dire sur ce show là. Donc même si je reconnais la qualité de ce show, je n'irai pas jusqu'à rejoindre l'engouement qu'il y a eu autour. Donc pour conclure avec ces deux spectacles, ce sont de bons spectacles dans ce qu'ils nous promettent. Vraiment, ce sont des shows qui font le taf, qui sont bien pour tout le monde, pour les enfants, pour toute la famille. Et c'est vraiment des shows qui permettent, voilà, de passer un bon moment entre deux attractions, l'après-midi ou le soir. Donc ça, c'est assez pratique et on passe de suite au point suivant qui, vous allez le voir, est un show, cette fois-ci un peu plus gros. Il est désormais temps de parler d'une des nouveautés les plus attendues de ce 25e anniversaire, et je parle bien entendu de la Disney Stars on Parade. Et oui, ça fait des années qu'on attendait le retour d'une vraie parade sur le parc, et si je dis ça, c'est puisque ça fait vraiment depuis les 15 ans qu'on n'a pas eu de renouvellement, ou en tout cas de véritable renouvellement pour ce qui est des parades. Et les parades, c'est quand même un peu l'emblème des parcs Disney. Vous demandez à quelqu'un d'extérieur ce qu'il retient d'un parc Disney, il va certainement vous parler de la parade. C'est le mouvement fort de la journée pour pas mal de visiteurs. Alors, avant que je vous donne mon avis, je vais voir un peu ce que vous en avez pensé sur Twitter, comme à chaque fois. Donc, vous êtes précisément 80% à avoir apprécié la Disney Stars on Parade, 12% à avoir trouvé ça mouais, et 8% à ne pas l'avoir aimé. Tout d'abord, il faut savoir que les parades, ce n'est pas non plus ce que je préfère sur le parc. Alors j'aime bien ça, de temps en temps regarder la parade, c'est vraiment quelque chose de très agréable, ça rappelle pas mal de souvenirs, c'est très lié à la nostalgie, mais généralement je me dirige plutôt vers les attractions pendant la parade. Cependant, une parade sur un parc Disney, c'est très important, et je vais donc vous donner mon avis sur celle-ci. Alors, malgré vraiment l'engouement qu'il y a eu autour de cette parade, et qu'il y a encore, hein, c'est une parade qui est vraiment très appréciée, personnellement, j'ai quelques problèmes avec celle-ci qui font que je ne me ressentirai pas forcément de la revoir très souvent. Tout d'abord, pour la musique. La musique, c'est quelque chose de très important pour une parade. Généralement, c'est ce qui vous marque, c'est la musique qui vous rentre dans la tête. C'est cette musique-là que vous allez peut-être réécouter chez vous. La musique, c'est très important pour moi pour une parade et dans un parc d'attractions en général. Et je n'ai vraiment pas accroché à la musique de la Disney Stars on Parade. Vraiment, je trouve ça un peu trop moderne. Enfin, en tout cas, c'est un peu trop moderne à mon goût pour une parade comme musique. J'en avais déjà parlé dans mon premier podcast, d'ailleurs, il me semble. Mais je n'ai pas accroché à la musique, bien que, gros point positif, celle-ci change en fonction des scènes et donc des chars. Ça, c'était pas le cas avant avec la Magic on Parade. Mais cette fois-ci, c'est de retour. On a de nouveau un système audio GPS qui permet à la musique de changer en fonction des chars. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, la musique, je dirais que personnellement, j'ai un problème avec, mais c'est purement personnel, donc on va pas vraiment prendre ça comme un point négatif. En revanche, un point qui est réellement négatif et de manière plutôt objective pour moi, c'est la cohérence de la parade qui est quand même assez confuse. On se retrouve en effet avec des chars tous un peu différents et qui viennent pas exactement des mêmes endroits. Donc on a des chars originaux, comme le char d'entrée de la parade avec Mickey, Minnie et ses amis qui lui est magnifique dans un style steampunk, vraiment un très beau char. On a le char de la Reine des Neiges qui est aussi une création originale, le char du monde de Nemo, donc tout ça ce sont des chars originaux, mais qui sont mélangés avec des chars recyclés et retapés d'anciennes parades, il me semble, de Tokyo Disneyland. Donc on a le char de Peter Pan et le char du Roi Lion et du Livre de la Jungle, et ça fait vraiment quelque chose de qui match pas ensemble en fait et qui colle pas. Ça crée un manque de cohérence puisque on va avoir des chars qui vont pas avoir la même texture, qui vont pas vraiment avoir la même hauteur, et ça va donner un tout un peu fouillis et un peu brouillon. On a aussi le char du dragon qui lui est magnifique, et vraiment c'est la grosse réussite de cette parade là, avec vraiment des rouages à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment très réussi. Il va cracher du feu, enfin vraiment, ce dragon est une réussite, mais encore une fois, ça dénote avec les autres chars. Donc, tout cet enchaînement de chars un peu différents les uns des autres, ça fait que tout ça n'est pas très cohérent. Et en plus, je trouve que la plupart des chars font très plastique, contrairement par exemple à la parade des 15 ans. Ici, on a vraiment des chars qui font faux, selon moi. Vraiment, on peut ressentir le plastique sur les chars. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas forcément, c'est très très brillant, ça fait très faux en fait, et ça c'est pas vraiment un effet que j'apprécie. Donc voilà pour ce qui est de mon avis sur cette parade, globalement vraiment mitigé, hein. Je dirais plutôt mouais pour le résultat, tout ça à cause de la cohérence, et ça va être un peu le même problème qu'on va retrouver pour le prochain show qu'on va aborder, vous allez le voir, c'est parti.
Et maintenant, and now... Disney Illuminations.
Passons donc au dernier point qui concerne le 25e anniversaire en lui-même, et pas n'importe quel point puisque celui-ci est plutôt cocasse, on va parler de Disney Illumination. Vous le savez donc certainement, Disney Illumination c'est le nouveau show nocturne qui a remplacé Disney Dreams pour les 25 ans du parc, et on va voir ce que vous en avez pensé sur Twitter. Donc vous êtes 37% à avoir aimé le show, 40% à avoir trouvé ça moyen, et 23% à ne pas l'avoir aimé. Donc c'est un show qui a subi quand même de nombreux avis négatifs de la part d'un certain nombre de fans de la communauté. Et c'est quelque chose que je comprends, puisque moi-même, si je devais voter, je répondrais que non, je n'ai pas apprécié le show, et je n'apprécie toujours pas ce show. Disons que, pour vous prendre un exemple, Et alors ça, on va en parler, c'est peut-être aussi un des problèmes justement qu'il y a par rapport à ça, mais à l'époque où Disney Dreams était en place, je pouvais très bien regarder Disney Dreams tous les soirs pendant un séjour. Alors que désormais, avec Illumination, je l'ai regardé une fois et je ne l'ai plus regardé depuis. C'est-à-dire que je préfère encore me faire BTM, donc Big Thunder Mountain, en boucle, en fin de soirée, pour faire tout simplement les derniers tours de train, tout ce genre de choses. Je préfère faire ça que de regarder Disney Illumination et je passe une meilleure soirée dans les attractions. Donc c'est quand même un petit problème puisque Disney Dreams pour moi c'était vraiment quelque chose de génial quoi. C'était l'apothéose d'une journée, l'apothéose émotionnelle. Et c'est ça le problème aussi de Disney Illumination, on va parler, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'émotion, ou en tout cas personnellement je ne ressens pas d'émotion en sortant de Disney Illumination, alors que à chaque fois qu'une représentation de Dreams se terminait, j'avais vraiment une certaine émotion en moi quoi, surtout la première fois que j'ai vu le show, ça m'a complètement bluffé. Alors est-ce que c'est pas aussi le problème de ce spectacle? Est-ce que il ne souffrirait pas un peu trop de la comparaison avec Disney Dreams? Est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter de le comparer avec son prédécesseur? Je ne sais pas vraiment, puisqu'au final, comparer deux shows nocturnes qui ont le même but, c'est tout à fait légitime. Mais alors, pourquoi Disney Illumination est mauvais selon moi? Il y a plusieurs points. Tout d'abord, l'utilisation de la projection qui a totalement changé par rapport à Disney Dreams. Et pour moi, on n'est vraiment plus du tout sur un show qui utilise le mapping d'une bonne façon. Je m'explique. Là où Disney Dreams, on avait vraiment une intégration réfléchie des projections au château. Je reprends par exemple la scène du génie où on avait vraiment cet effet par exemple de feu d'artifice qui s'envolait des différentes tours du château. On avait aussi cette scène, toujours dans la scène du génie, donc où le château se transformait en une espèce de casino vraiment qui clignote de partout avec des lumières qui s'allument. On avait de magnifiques scènes comme ça. Je pourrais très bien citer la scène du bossu de Notre-Dame que je trouve vraiment très réussie, dans le sens où on a vraiment la Quasimodo qui passe de tour en tour du château et on n'utilise pas le château comme un simple écran mais comme un réel support pour ce qui va se passer dessus. C'est vraiment, on s'appuie sur le château pour créer des images par-dessus. Alors que dans Disney Illumination, le château est juste un simple écran qui permet de projeter différentes séquences sans vraiment qu'il y ait de réflexion sur la spatialisation des séquences et de ce qui va se passer sur le château. Un exemple, je trouve que dans Disney Illumination, beaucoup de choses se trouvent en bas du château et très peu de choses se passent sur la partie haute du château, contrairement à Dreams par exemple. C'est-à-dire que si vous êtes un peu mal placé, vous allez rater énormément de choses parce que beaucoup de choses se passent en bas. Ça, je trouve ça très mal fait. C'est vraiment l'utilisation du château comme un écran et c'est pas ce qu'on recherche dans un show nocturne, parce que de nos jours, projeter quelque chose sur une façade, c'est devenu très commun et c'est devenu vraiment facile. Donc ce qui doit faire la différence dans un show Disney, c'est certes tous les artifices qu'il y a autour, donc feux d'artifice, fontaines d'eau qui pour le coup sont bien utilisés, mais aussi une bonne utilisation du mapping, c'est très important. Et ça, Disney Illumination n'arrive pas à le faire selon moi. La scène Star Wars, je la trouve vraiment pas top. Je trouve qu'on n'y voit rien à certains moments. Quand on a le Destroyer qui passe sur le château, c'est quasiment illisible, je trouve. La scène de Pirates des Caraïbes, à la limite, est elle plutôt réussie. On a une scène de La Belle et la Bête live action qui, elle, casse complètement le rythme du show. On se retrouve à la fin avec une scène, je ne sais même pas combien de temps elle dure, de La Reine des Neiges, qui, pour le coup, est ok, plutôt bien réussie, mais trop longue. On a la sempiternelle scène du Roi Lion, enfin, une scène de La Petite Sirène, vraiment. C'est très mal équilibré comme show, alors que sur Dreams, on avait vraiment quelque chose qui fonctionnait mieux avec un fil rouge. Alors vous allez me dire, oui, bon, tout le monde dit que Dreams avait une histoire, mais en réalité, c'était pas très développé. Et pourtant, si, ça fonctionnait très bien. C'est-à-dire que non, on ne peut pas développer une longue histoire dans un show nocturne, mais on peut très bien avoir un fil conducteur qu'on va tenir tout du long. Donc là, on avait cette histoire de l'ombre de Peter Pan qui s'échappe, et Peter Pan qui va donc essayer de retrouver son ombre. On avait Vraiment quelque chose de très bien organisé avec l'introduction, les péripéties et la conclusion avec le combat final contre les méchants et une séquence entièrement dédiée aux méchants à la fin. C'est tout à fait logique et ça suit tout simplement, comment dire, un fil scénaristique logique et cohérent. Alors que là, pour Disney Illumination, ben c'est qu'une espèce de grande pub géante qui n'a même plus d'intérêt, puisque La Belle et la Bête, le film est sorti il y a maintenant quand même pas mal de temps. Ça donne vraiment cette impression d'un show pas réfléchi, et qui est vraiment là pour, voilà, pour balancer quelque chose au spectateur, simplement et assez vulgairement. Donc voilà, je pense avoir assez bien argumenté mon propos pour ce qui est de Disney Illumination. Donc vraiment, si je pense que ce show est mauvais, c'est pas simplement pour suivre le mouvement, mais je pense vraiment et sincèrement qu'il y a de gros problèmes dans ce show, et j'espère que le prochain show nocturne du parc sera mieux et sera cette fois-ci réfléchi comme un véritable show nocturne où le mapping est utilisé comme il se doit. On en a donc fini avec les festivités du 25e anniversaire en elle-même, mais on va désormais pouvoir parler de tout ce qui est arrivé en parallèle de cet anniversaire et de ces années 2017-2018, et un des points les plus importants, ça a été de voir le résultat du fameux plan de réenchantement du parc qui avait, je vous le rappelle, pour but de remettre à niveau les principales attractions du parc, donc de les rénover, de les réhabiliter pour pouvoir leur redonner leur couleur d'antan. Donc je vous ai demandé sur Twitter ce que vous pensez du résultat de ce plan de réenchantement. Vous êtes 44% à m'avoir dit qu'il a été utile et c'était vraiment une bonne chose, 46% à m'avoir dit que ça dépendait vraiment des attractions réhabilitées, et 10% à avoir trouvé ce plan de réenchantement inefficace. Alors, je serais plus pour pencher dans les 46% qui ont dit que ça dépendait vraiment. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi de suite. Alors, ça a commencé avec la réouverture de Peter Pan's Flight. Ça a été la première véritable attraction qui est partie tout simplement en réhabilitation pour ce plan de réenchantement. Et pour le coup, j'ai pas grand-chose à dire, mis à part que c'est une réhabilitation réussie. L'attraction a retrouvé ses couleurs. On a quelques nouveaux effets qui ont été rajoutés, avec notamment l'arrivée du numérique. Pas de très gros changements, mais ce qui fait que la réhabilitation, on peut encore voir à l'heure actuelle ses effets. C'est une réhabilitation qui a été vraiment bien réussie, simple mais efficace. Et la réhabilitation qui a suivi Peter Pan's Flight, ça a été la réhabilitation de mon attraction favorite, Big Thunder Mountain. Et alors là, on a eu droit à un chantier assez long et titanesque, puisque le lac de Frontierland a entièrement été vidé. Tout ce qui entourait ce lac-là a été palissadé, donc on se retrouvait finalement avec un land très peu actif. Il n'y avait que Phantom Manor. Big Thunder Mountain, c'est une attraction qui participe énormément, on en avait déjà parlé dans un des podcasts, à la dynamique du land et vraiment à l'ambiance du land, avec le bruit des trains, vraiment voir le train passer, ça renforce vraiment la dynamique du land. Donc avoir toute cette attraction-là et toute cette zone-là du land fermé, ça a été assez triste pendant quelques temps, mais on nous promettait quelque chose de vraiment bien, notamment une scène finale explosive dans le dernier lift, donc avec de la projection, de la fumée et plein de choses dans le genre. Et donc, dès la réouverture, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient très réussies, notamment le fait que la montagne ait été totalement repeinte. Ça, c'est vraiment du plus bel effet, on a de superbes couleurs, vraiment, ça rend très très bien. Également, le retour du splash, donc du jet d'eau, au moment où la photo est prise dans l'attraction, ça c'était un très bon retour, un effet qui fonctionne quand même assez souvent. En tout cas, personnellement, j'ai eu la chance à chaque fois que je faisais l'attraction d'avoir cet effet-là assez régulièrement. Donc sur ce point-là, personnellement, je n'ai pas grand-chose à dire. Alors peut-être que c'est un effet qui ne fonctionne pas souvent, mais je n'en ai pas fait les frais, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. En revanche, dès la réouverture de l'attraction, on a eu quelques problèmes avec ce fameux lift explosif, donc cette dernière scène qui était censée être impressionnante. On s'est retrouvé avec de la fumée une fois sur deux, parfois pas du tout de fumée, très vite une projection qui va même commencer à déconner, avec une projection présente seulement d'un côté et pas de l'autre. Donc voilà, cette scène explosive, ça a été quand même un sacré raté, notamment pour ce qui est de la fumée qu'on nous avait promise. Et un autre point très négatif, ça a été le fait que l'attraction tombe toujours autant en panne. Alors ça, c'est quelque chose qui était déjà très fréquent avant. Big Thunder Mountain, c'est une attraction qui a pour réputation de tomber très 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 souvent en panne. Et on nous avait quand même promis, ou en tout cas on pouvait espérer avoir une amélioration à ce niveau-là. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Dès les premières semaines d'ouverture, l'attraction est repartie très vite en panne. Pas mal de problèmes techniques, donc comme je vous l'ai dit, plus de fumée. Tout ça, ça fait que cette réhabilitation, au final, même qui a eu pas mal d'aspects positifs, eh bien, ça reste quand même assez bof pour une réhabilitation aussi longue et pour un plan de réenchantement. Pour moi, c'est pas totalement réussi. Ils auraient dû essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème, notamment au niveau des pannes. Alors oui, on sait très bien que tout ça est lié à l'embarquement et au temps d'embarquement qui doit être respecté à la seconde près. Donc voilà, après ça, c'est pas à nous, guests, de se poser ces questions-là, mais vraiment aux équipes du parc d'essayer de faire en sorte que ces problèmes soient réglés et qu'il n'y ait plus de panne pour les visiteurs et qu'on n'ait pas tout simplement à attendre des heures dans la file d'attente et tout d'un coup devoir évacuer parce qu'il y a une panne ou de ne pas pouvoir faire Big Thunder Mountain d'une journée puisqu'il va tomber en panne pendant la majeure partie de l'après-midi. Ça, c'est des choses qui auraient dû disparaître. Donc la réhabilitation de Big Thunder Mountain, bien sûr, certains points, elle était nécessaire, mais Disneyland Paris n'est pas allé jusqu'au bout. Et on va parler de quelque chose un petit peu plus tard quand on aura fait un peu le tour de toutes les réhabilitations, mais Disneyland Paris a vraiment un gros problème avec la maintenance. Mais avant de parler de ça, on va passer de suite à la deuxième réhabilitation importante qui a été Pirates des Caraïbes. Alors je vous épargne ici mon accent anglais en prononçant donc le nom de l'attraction en français. Je pense que c'est mieux pour vos oreilles. Donc la réhabilitation de Pirates des Caraïbes, vraiment là on est sur quand même une assez grande réussite, ou en tout cas dans les mois qui ont suivi l'ouverture. Donc si on parle vraiment de la réhabilitation en elle-même et de ce qui a été apporté, on avait quand même pas mal de craintes dans la communauté pour ce qui est de l'intégration de la licence donc des films Pirates des Caraïbes dans l'attraction, avec notamment tout simplement l'arrivée de Johnny Depp en animatronique, donc de Jack Sparrow. J'avais moi-même peur et finalement j'ai été très 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 agréablement surpris par la qualité de la entre guillemets rethématisation. C'est pas vraiment une rethématisation, mais de l'ajout qui a été fait dans cette attraction-là. Ça s'intègre vraiment bien à notre version. Je trouve que le Jack Sparrow de la scène finale, donc sur le trésor, est vraiment très réussi et ça rend la scène vraiment bien meilleure que ce qu'elle était avant. L'animatronique, c'est très réaliste, les mouvements sont très réalistes. De plus, il est vraiment très bien mis en valeur. C'est On pouvait pas avoir un meilleur décor que le nôtre pour cet effet-là, contrairement au parc américain où il est enfermé dans une espèce de petite box, de petite bibliothèque remplie d'or et ça le met pas vraiment en valeur. Donc voilà, la scène où il apparaît dans le tonneau, c'est très discret, ça fonctionne très bien. Voilà, vraiment, les musiques de l'attraction sont restées présentes et restent prédominantes par rapport aux musiques des films qui apparaissent seulement dans les moments clés, donc à l'extérieur de la file d'attente et également dans la scène, j'ai envie de dire, la plus forte de l'attraction, qui est donc après la première descente où on arrive dans la bataille, au cœur de la bataille, avec tout simplement ce navire qui attaque le fort. Donc à ce moment-là, ça rajoute vraiment de l'épique à la scène. Donc tout ça fait que dans la globalité, dans l'idée générale, la réhabilitation est réussie. En revanche, est-ce que ça a été réussi au niveau technique, au niveau purement technique, donc au niveau du réenchantement au final? Eh bien, au début, je pensais que oui. On a retrouvé vraiment une attraction en pleine forme, avec des voix très claires, un audio très clair, des effets de fumée, de canon qui fonctionnent très bien, des animatronics fluides. Vraiment, on s'est retrouvé avec une attraction dans un état impeccable, mais encore une fois, et on ne sait pas pourquoi, au bout de quelques mois, on a commencé à remarquer que lentement l'attraction s'est mise à de nouveau se dégrader, à avoir des effets moins fluides, un peu moins fréquents. On a vraiment vite senti que l'attraction était moins neuve que ce qu'elle aurait dû être après ce plan de réenchantement. Et alors ça me pose vraiment des questions. Pourquoi Disneyland Paris n'arrive pas à gérer vraiment une bonne maintenance et à avoir vraiment des effets fonctionnels dans toutes ces attractions? On a eu la même chose avec Ratatouille qui très vite n'a plus d'odeur ou alors avait une odeur une fois sur deux, des effets d'eau qui ne marchent pas, voilà, enfin... Ce problème d'entretien, c'est un peu généralisé à toutes les attractions et on a vraiment l'impression que dès qu'on a un peu de technologie, dès qu'on a des nouvelles choses, eh bien, c'est un peu laissé là sans vraiment s'intéresser au fait que tout ça reste en bon état. Donc c'est vraiment une question que je me pose. Pourquoi on a d'aussi gros problèmes de réhabilitation sur le parc ? C'est une réflexion que je ne suis pas le seul à me faire, je pense. On en a un peu débattu avec plusieurs personnes sur Twitter, et je pense qu'il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Donc voilà pour ce qui est du plan de réenchantement. On attend bien évidemment avec impatience la réouverture de Phantom Manor en 2019, et j'espère que la réhabilitation sera de qualité. Je pense qu'elle sera d'aussi bonne qualité que celle de Pirates des Caraïbes, donc on devrait avoir quelque chose de plutôt bien. Il y a pas mal de choses intéressantes qui vont venir, je pense, l'éclaircissement de l'histoire, j'en entends pas mal de choses, mais la question ça va être, est-ce que la réhabilitation va durer sur le long terme? Est-ce que l'attraction va être délaissée ou est-ce qu'on va réellement décider de l'entretenir? Donc plutôt mitigé pour ce qui est de ce plan de réenchantement. D'un côté, il y a des choses vraiment super qui ont été faites, voilà, on a repeint Big Thunder Mountain en entier, ça c'est super, on a même fait quelques modifications au niveau de l'architecture de la zone où la photo est prise dans l'attraction, ça c'est un bon point. Pirates des Caraïbes, vraiment une bonne incrustation de la licence au sein de l'attraction, un bon point. Voilà, pour ce qui est de Peter Pan's Flight, une réhabilitation réussie. Adventure Isles, très bien réhabilité, très propre, vraiment un éclairage nocturne entièrement refait et qui sublime vraiment le lieu, un éclairage des caves également revisité. Tout ça, c'est très réussi. Mais c'est noyé dans pas mal de points négatifs, et notamment le fait que ça ne tient pas sur le long terme. On a encore des problèmes sur ce point-là, et ça fait que oui, le parc a été réenchanté, mais on a l'impression vraiment que ce réenchantement n'est pas valable sur le long terme. Donc on va voir ce que ça va donner avec Phantom Manor, comme je vous l'ai dit. En tout cas, c'est tout pour ce point-là, et on va de suite passer au prochain point, tout simplement. Autre point qui nous manque donc, que le parc est sur la bonne voie et est bien décidé à changer, ça a été la nouvelle dynamique de saison qui a été adoptée durant l'année 2017-2018. Effectivement, avant, on se retrouvait avec Halloween, Noël, et c'était à peu près tout. Mais depuis ces années-là, on a commencé à voir apparaître un tas de nouvelles saisons, comme la saison de la Force, la saison des super-héros Marvel cet été. On a également eu le festival Pirates et Princesses. Cette année, le festival d'Halloween. Également, la saison de Noël qui a été magnifique l'année dernière. Donc voilà, on a vraiment cette nouvelle politique, j'ai envie de dire, de nous mettre des saisons quasiment non-stop pendant toute l'année pour qu'il n'y ait vraiment plus de période creuse, ou en tout cas plus vraiment, et que à chaque vacances, voilà, à chaque période de l'année, il y ait une nouvelle saison à découvrir, il y ait de nouvelles choses à voir. On est vraiment sur cette politique-là de créer des petits événements comme ça, des saisons tout au long de l'année pour attirer de nouveaux visiteurs, et c'est une très bonne chose, je trouve. Je vous ai demandé ce que vous avez pensé de cette nouvelle dynamique sur Twitter et de ces nouvelles saisons en général. Est-ce que vous les avez appréciées? Est-ce que vous aimez ce nouveau système-là? Vous êtes 87% à m'avoir dit que oui, 13% à avoir dit que c'était moyen, et 0% sur 31 personnes à m'avoir dit que c'était nul. Et je suis d'accord avec vous, vraiment, cette idée-là de ne plus avoir de saison morte sur le parc, c'est une super idée, je trouve. Alors après, on va toujours pouvoir débattre des inégalités entre telle ou telle saison. Par exemple, entre la saison de la Force et la saison de Noël 2017, il y a quand même eu un gouffre assez impressionnant. Donc oui, il y a des inégalités entre les saisons, mais ça n'empêche qu'on a des saisons avec du contenu bel et bien présent. On a eu le festival Pirates et Princesses qui l'année dernière a vraiment eu un succès mais inattendu, et pourtant c'était une saison qui n'avait, j'ai envie de dire, qu'un seul véritable show. Alors celle, on avait deux petits shows autour, un en rapport avec Jack Sparrow et l'autre qui était en rapport avec les princesses Disney Channel, enfin bref, quelque chose de pas vraiment terrible. Mais voilà, on a eu ce nouveau show, qui est d'ailleurs une nouvelle manière de faire des shows à DLP, et qui est vraiment pas mal du tout, même si j'ai pas pu expérimenter ni Festival des Princesses, ni la nouvelle saison d'Halloween, qui utilise ce système-là de showstop sur Main Street durant une parade où les danseurs vont sortir des chars et vont faire une chorégraphie sur les scènes de Central Plaza. Ça, je trouve que c'est une super idée. C'est vraiment une nouvelle manière de faire un show qui dure et qui peut se visionner plusieurs fois. Et ça, c'est important, pouvoir visionner un show plusieurs fois dans une même saison sans se lasser. C'est quelque chose qu'il faut réussir à faire, et ils ont réussi à le faire sur ce point-là. Donc Festival Pirates et Princesses, vraiment une réussite. Comme nouvelle saison, on a également eu pendant maintenant quelques années la saison de la Force, qui va d'ailleurs avoir quelques changements dès l'année 2019, mais on va pas vraiment en parler ici, c'est pas le sujet du podcast. La saison de la Force, c'est une saison quand même pas hyper réussie, je trouve. On a quelques chaudes journées qui sont vraiment en dessous de la qualité de pas mal d'autres shows, je trouve. Et on a globalement un show nocturne qui, lui, pour le coup, est pas mal, mais c'est à peu près tout. Il n'y avait pas encore de rencontre personnage, c'était vraiment pas une super saison, pas énormément de thématisation, vraiment quelque chose d'assez light. Mais ça faisait une saison en plus, et ça a commencé à dynamiser les Walt Disney Studios, puisque ça a été la première saison au sein des Walt Disney Studios, avant la saison des super-héros Marvel qui est arrivée cet été. On en a déjà pas mal parlé dans le podcast précédent, je vais pas m'étaler, mais globalement, voilà. C'est tout de même une bonne saison, cette saison des super-héros. Alors oui, il y a eu pas mal de problèmes avec le show de l'Alliance des super-héros, mais ça a marché, ça a fonctionné. C'est une saison qui a vraiment eu du succès et qui était tout de même réussite. Ça a dynamisé les Walt Disney Studios, il n'y a pas de doute. Il y a une ambiance qu'il y avait dans ce parc-là durant cette saison qui fonctionnait, avec le show des Gardiens de la Galaxie, la Stark Expo. Il y avait toujours quelque chose de Marvel autour de la place des stars, et ça, c'était quelque chose de réussi. Et encore une fois, en termes de nouvelle dynamique du parc, ça fonctionne. Ensuite, autre point très positif, ça a été la saison de Noël 2017 que j'ai eu l'occasion de tester et qui, elle, pour le coup, mais alors là, m'a vraiment surpris. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et là, je me suis dit, ok, ça y est, Disneyland Paris est revenu dans le jeu pour ce qui est des spectacles. Disneyland Paris et les spectacles, c'est quand même une grande histoire. On a eu pas mal de shows très bons pendant pas mal d'années, et on a eu, ces dernières années, j'ai envie de dire, une période creuse. Plus beaucoup de shows, un parc mort, plus de personnages, vraiment plus de shows, hein, tout simplement. Plus de spectacles vivants. Et là, ça y est, quand j'ai assisté à cette saison de Noël, je me suis dit, Disneyland Paris est de retour. On avait un nombre de shows assez impressionnant et quasiment tous de qualité, sauf peut-être le show dont je ne me souviens plus du nom, qui se situait sur la toolbox et qui faisait vraiment faussement jeune, et le show en rapport avec Stitch qui ne m'intéressait pas plus que ça. Mais on avait quand même Mickey le Big Band de Noël, qui était un super show, un gros coup de cœur, avec des chanteurs live, vraiment des musiques de Noël, des musiques jazzy, une ambiance que j'adore, j'aime beaucoup tout ce qui est jazzy en plus, donc c'était parfait pour moi. On avait un nouveau show de projection sur la Tour de la Terreur, donc avec l'incroyable Noël de Dingo. Alors, on pense ce qu'on veut, mais moi, j'ai vraiment bien aimé ce show. On a eu la cérémonie d'illumination du sapin qui était de retour, et que c'est un show qui est très petit, mais que j'apprécie toujours autant. Je trouve que la magie fonctionne vraiment bien sur ce show. Ça représente vraiment un Noël un peu plus traditionnel, un peu plus comme je l'apprécie au final. Et voilà, donc cette saison Noël, elle était vraiment très réussie. On avait vraiment toutes les traditions un peu de Noël qui étaient représentées. Donc le Noël un peu pop, le Noël un peu traditionnel, le Noël plus jazzy new-yorkais. Et c'était vraiment une bonne saison. Alors, certes, il y a eu un bémol au niveau de la saison Halloween 2017, mais je vais pas ici le prendre en compte dans le sens où c'était vraiment une saison d'Halloween transition, je pense, vers ce qu'on a eu cette année avec le retour des décos sur Main Street. Donc voilà, là j'ai parlé assez rapidement, j'espère que vous avez réussi à me suivre, mais c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour les saisons au final, hein. C'est vraiment une bonne chose que Disneyland Paris mise sur du 100% saison durant toute l'année. Donc en résumé, pour ce qui est des saisons, que du positif, et un autre point qui va dans cette même lignée de faire sans arrêt de nouveaux événements, de rendre le parc vivant via cette nouvelle dynamique, ben ça a été le fait que on ait eu énormément de soirées durant l'année 2017-2018. On a eu la Disney Love Jazz, on a eu l'arrivée des soirées réservées au pass annuel, donc Infinity, et ensuite les soirées Infinity plus Magic plus. On a eu quoi ? On a eu la soirée Halloween, les soirées du Nouvel An, et je suis sûr que j'en oublie, je suis persuadé que j'en oublie. On a eu Electroland, enfin, vraiment, on a l'impression que les soirées s'enchaînent de plus en plus, et ça crée toujours cette espèce d'impression qu'il se passe toujours quelque chose sur le parc, il y a toujours un événement, il y a toujours quelque chose de vivant qui se déroule, on a toujours une actualité à piquer par-ci, par-là, et notamment la présence de pas mal de soirées. Alors je vous ai demandé ce que vous en avez pensé sur Twitter. Vous êtes 29% à me dire que c'est bien, 58% à me dire que ça dépend vraiment des soirées, et il y en a certaines qui sont qualitatives et d'autres qui ne le sont pas, et 13% à m'avoir dit que c'était nul, tout ça sur 24 votes. Je serai plus dans l'avis du ça dépend, et je pense qu'on sera à peu près tous d'accord pour partir sur ce point-là. Toutes les soirées ne se valent pas, hein, et j'ai pu en faire la démonstration, puisque durant toutes ces soirées qui sont apparues en 2017-2018, j'ai pu en faire qu'une, c'était la soirée Marvel, et qui était peut-être bien la pire de toutes ces soirées-là. Donc on voit bien qu'il y a des différences de qualité, que toutes les soirées ne se valent pas. On a vraiment l'impression qu'ils continuent toujours encore un peu à tâter le chemin, à se demander qu'est-ce qui fait une bonne soirée. Alors ils commencent un peu à trouver les solutions, donc mettre pas mal de personnages. Ça c'est quelque chose qui nous ressort un peu pour chaque soirée, donc les personnages rares. J'avais oublié la Fan Days, bien évidemment, qui est apparue. J'en ai pas parlé, mais ça c'est également un événement majeur de ces années-là, donc 2017-2018. Donc voilà, les soirées ne se valent pas toutes, mais globalement c'est du positif puisque ça amène de la vie au parc, et ça nous permet de les découvrir d'une manière différente qu'en journée via des soirées thématiques. Alors les thématiques sont plus ou moins respectées, plus ou moins poussées, mais en tout cas c'est vraiment une bonne chose que ces soirées soient apparues durant ces années-là. Je me répète un peu, c'est peut-être parce que j'ai fait le tour de la question. N'hésitez pas d'ailleurs pour chaque sujet à me dire ce que vous en pensez sur Twitter ou même en commentaire de ce podcast, pourquoi pas. Et on va de suite passer au point suivant. Avant-dernier point de ce podcast, toujours en rapport avec la renaissance entre guillemets de Disneyland Paris, le retour de Disneyland Paris comme d'un parc d'attractions vivant, ça a été quelque chose que j'ai remarqué. Alors je ne sais pas si c'est votre cas, sur ce point-là, je me pose vraiment des questions, alors n'hésitez pas à me dire si vous avez remarqué la même chose que moi, mais je trouve que la communication de Disneyland Paris en général a vraiment changé durant là ces deux dernières années, et est vraiment de qualité pour le coup, puisque on retrouve, je trouve, une communication vraiment plus proche des fans, avec beaucoup plus d'annonces. On nous laisse jamais trop de temps sans nouvelles annonces, sans nouveaux petits détails qu'on va apprendre. Vraiment, c'est fini ces longues périodes à traîner sur les forums pour faire des théories sur les attractions à venir. Ça, c'est bien évidemment toujours présent, mais on peut s'en passer sans problème puisque on a toujours en permanence des annonces officielles qui vont se faire, notamment grâce à l'arrivée du groupe Insiders, qui est au final la continuité de ce qui se faisait déjà avant, mais qui permet, je trouve, vraiment d'avoir une nouvelle proximité entre l'équipe de communication de Disneyland Paris et les fans. Vraiment, on a cette harmonie qui se fait désormais. Les fans sont considérés, le public lambda, entre guillemets, rien de négatif là-dedans, bien entendu, je pense, ressent également cette nouvelle politique de communication, puisque depuis le 25e anniversaire, on a plus de spots publicitaires, vraiment une publicité plus présente, que ce soit à l'époque pour le 25e anniversaire avec l'arrivée de Star Tours qui était vendu comme une nouvelle attraction, avec la saison des super-héros Marvel qui a eu une énorme publicité, c'était présent de partout, des affiches, dans n'importe quelle ville où vous alliez, vous avez des affiches sur l'été des super-héros Marvel, même moi qui habite vraiment dans le sud de la France, on avait de la promo à ce niveau-là, pas mal de spots publicitaires, pas mal de spots même au cinéma, enfin vraiment c'est quelque chose qui a été très fort en termes de communication, et donc on a ce changement-là depuis ces deux dernières années. Alors je vous ai demandé sur Twitter si vous trouvez que la communication de Disneyland Paris était désormais de plus en plus présente et en accord avec les fans, vous êtes 79% à m'avoir dit que oui et 21% à m'avoir dit que non. Donc globalement sur ce point-là, ça s'est amélioré de manière considérable et il y a toujours quelque chose à dire sur le parc désormais. Vous traînez sur Twitter, il n'y a pas une ou deux journées sans qu'on apprenne un petit détail par-ci, un petit détail par-là. Alors, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le dans la polémique des insiders. Je n'en fais pas directement partie, DLP Podcast ne fait pas partie du groupe entre guillemets Insiders, Daily Disneyland fait partie en revanche d'Insiders, étant donné que ce podcast est un podcast Daily Disneyland, ça peut me permettre, si l'occasion se présente, de pouvoir assister peut-être à certains événements bien précis, mais je n'en fais pas officiellement partie. Donc je ne rentrerai pas sur le débat des insiders, mais pour moi, globalement, c'est vraiment une bonne chose. Et je ne rentrerai pas non plus dans cette idée-là de théorie du complot, les insiders corrompus, tout ce genre de choses. Pour moi, c'est pas le cas. Vous avez qu'à voir par exemple les collègues de Rien que d'y penser, écouter leur podcast et vous allez très vite vous rendre compte qu'ils donnent réellement leur avis. Pour la soirée Marvel, ils ont donné leur avis. Pour pas mal de choses, ils donnent leur avis. Et je pense que c'est le cas de pas mal d'insiders. Alors si certains se bloquent, ça ne peut venir que d'eux-mêmes, je pense. Donc voilà pour ce qui est de la communication à Disneyland Paris. On va désormais passer au dernier point et parler un peu de l'avenir. C'est bien beau tout ça, les 25 ans, 2017-2018. Mais alors, est-ce que ça va continuer? Comment ça va continuer? Eh bien, on va voir ça de suite. Il est donc temps de se poser la question suivante. Sommes-nous confiants pour ce qui est de l'avenir de Disneyland Paris? Effectivement, comme je vous l'ai déjà dit durant ce podcast, Disneyland Paris a connu pas mal de galères depuis son ouverture jusqu'à maintenant. Mais on le voit, on n'a pas cessé de le répéter durant tout ce podcast. Les choses changent, le parc s'est fait racheter. On appartient maintenant à la maison mère de manière intégrale. Donc, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre pour l'avenir? Est-ce qu'on fait confiance en l'avenir du parc? Eh bien, c'est exactement ce que je vous ai demandé sur Twitter, en vous demandant si vous étiez confiant pour l'avenir du resort dans les prochaines années. Eh bien, sur 47 votes, vous êtes 66% à m'avoir dit que oui, vous êtes confiant pour l'avenir du parc, 28% à être un peu plus sceptique et à attendre de voir tout simplement comment tout ça va évoluer, et 6% à ne pas être confiant pour l'avenir du parc. Et c'est vrai que bien que l'avenir du parc me semble personnellement plutôt radieux, je pense pas qu'on va faire encore une fois un pas en arrière et revenir dans ces années-là où il ne se passait rien. Là, on est bien parti pour rester sur la même lignée, peut-être même pour avoir de plus grandes annonces durant les D23. Enfin, Disneyland Paris, je pense, va, quoi qu'il arrive, prendre sa place dans vraiment la gamme de qualité des parcs Disney. Il va vraiment s'aligner avec les parcs américains sur certains points, je précise bien, ou en tout cas sur la communication globale, on va vraiment être en alignement avec ce qui se fait en Amérique. On retrouve un peu les mêmes saisons maintenant, donc Marvel ici et en Amérique, pas mal de parallèles qui se font à ce niveau-là, mais il y a quand même ce petit truc qui fait que DLP reste toujours un cran en dessous. Voilà, on va par exemple venir nous mettre Mickey et son orchestre Philharmagique au beau milieu de Discoveryland. La logique, vous pouvez la chercher, je ne sais pas vraiment si vous allez la trouver. D'ailleurs, ne cherchez pas, vous ne la trouverez pas. On va nous proposer des saisons inégales. La saison de la force, clairement en dessous des autres, même si c'est sympathique, comme je l'ai déjà dit avant. Des rethématisations vraiment pas extraordinaires. Hyper Space Mountain, pourquoi le garder aussi longtemps? C'était censé être quelque chose de quand même assez provisoire, et au final, il est toujours là. Alors pourquoi vous ne nous remettez pas au moins la version 2 si vous ne voulez pas faire l'effort de revenir à une version 1 remasterisée, j'ai envie de dire. Plein de choses comme ça qui font que Disneyland Paris est en dessous. Le service client qui est peut-être un peu en dessous. Plein de petites choses qui font que DLP continue à nous décevoir. Des soirées pas à la hauteur. Un plan d'expansion très impressionnant à première vue, et alors attention, là je mets des grosses pincettes dans ce que je dis, puisque tout ça est très alléchant, mais on connaît pas vraiment les détails de ce plan d'expansion là, et d'après les premiers plans qui sont commencés à sortir, plan officiel, plan de travail littéralement, hein, j'ai envie de dire, ce qu'on retrouve, c'est des proportions assez petites. Le land Star Wars Galaxy's Edge, il a l'air vraiment minuscule par rapport à ce qui se fait en Amérique. Alors tout ça, c'est encore pour l'instant assez provisoire, hein. On peut pas vraiment, en tout cas, se projeter réellement et faire de grandes théories, mais il y a de grandes chances pour que notre Galaxy's Edge soit beaucoup plus petit qu'aux États-Unis, ne possède qu'une attraction, voilà, ne soit pas aussi fouillis, ne soit pas aussi labyrinthique, j'ai envie de dire, que celui des États-Unis. J'ai peur qu'on se retrouve avec des espèces de places de Rimi bis pour chaque nouveau land. Alors comme ça, ça fait rêver, une extension super, les attractions sont sans doute géniales, hein. Le Dark Ride de Frozen, s'il y en a un, il sera sans doute de qualité. Pareil pour celui de Star Wars, mais si on se retrouve avec de tout petits lands, je suis désolé, mais c'est pas ce qu'on attend. Nous, on veut pouvoir passer une journée entière au Walt Disney Studios. Et c'est pas juste en rajoutant deux simples attractions que ça va changer. Alors oui, on a aussi l'arrivée du Land Marvel, qui lui, pour le coup, nous promet pas mal de choses, hein, contrairement à ce que je pouvais penser au début. Donc voilà, c'est un peu en demi-teinte. Ce plan d'expansion-là, je fais confiance, mais j'ai peur d'être déçu. J'ai peur qu'on ait des places de Rémy Bis, comme je vous l'ai dit, avec certes des attractions de qualité, mais des lands pas assez grand, contrairement à ce qu'on peut avoir aux États-Unis. Donc on a encore une fois ce décalage qui est lié à, voilà, un budget moins élevé pour Disneyland Paris, toujours moins pour Disneyland Paris. Et pourtant, il va bien falloir remettre le parc au niveau si on veut vraiment le considérer comme un parc qui est comparable avec les parcs américains. Donc globalement, dans la dynamique globale, je pense qu'on va rester sur la même lignée, vraiment continuer dans cette idée de faire des saisons non-stop, de continuer les soirées, de faire vivre le parc via des événements. Ça va continuer et c'est une très bonne chose, mais ça ne suffit pas. Maintenant, ce qu'il faut et ce qu'on attend pour les 30 ans notamment, c'est quelque chose de plus fixe. Les saisons, c'est bien, mais c'est provisoire. Nous, ce qu'on attend, c'est de nouvelles attractions. Et j'ai envie de dire, c'est à peu près tout, surtout de nouvelles attractions. Un parc d'attractions se doit de renouveler son offre avec des nouveautés fixes, des nouveautés qui ne sont pas provisoires. Ça passe par les attractions. Et Disneyland Paris est à la ramasse sur ce point-là. Quand on voit qu'on nous annonce de nombreux projets pour les parcs américains qui s'enchaînent, dès qu'un projet est terminé, un autre arrive, un autre est en cours, et qu'on voit qu'à Disneyland Paris, on se retrouve avec, certes, un nouveau plan d'expansion, mais pour l'instant, rien d'annoncé au Disneyland Park, on se pose des questions et c'est ce qu'on attend dans les années à venir. Donc je pense que cette politique-là, Disneyland Paris doit la garder. Ils doivent continuer à faire ce qu'ils ont commencé à faire, mais il faut également penser en parallèle à un peu plus développer le parc en termes de l'offre plus concrète, plus fixe, donc tout ce qui touche aux attractions notamment. On en a donc fini. Les 10 points que nous devions aborder ont été traités, et pour faire un petit bilan global, je dirais que ce 25e anniversaire, et là je vais vraiment en parler personnellement, ça a été un anniversaire qui, malgré ses nombreux défauts, restera pour moi vraiment le début du changement, le changement de la destination. Ça a été une année merveilleuse, la création de DLP Podcast, vraiment pas mal d'actualités sur Twitter, pas mal de réactions, pas mal de rencontres, que ce soit sur Twitter ou même en réalité sur les parcs, on a pu se rencontrer pour certains. Enfin, ça a vraiment été une année assez forte, avec pas mal de nouveautés, pas mal d'annonces, toujours quelque chose à voir par-ci par-là, toujours quelque chose à quoi réagir. Donc voilà, malgré les nombreux défauts, c'est je pense un anniversaire qu'on n'oubliera pas, parce qu'il a été un anniversaire tournant, un anniversaire pilier qui a permis à la destination de prendre un nouveau départ.
You'll know it when your heart finds. Hearing our song as old as rhyme. Hold my hand, we're gonna fly. What a magic ride, and just a kiss away. If you can dream, the wish we're making on a star is coming true.
C'est donc sur ces derniers mots que ce premier épisode de la saison 2 de DLP Podcast s'achève. J'espère encore une fois avoir été assez clair et non répétitif. Si vous avez la moindre remarque, le moindre défaut que vous remarquez dans le podcast, n'hésitez surtout pas à m'en faire part sur Twitter. Je suis à l'écoute et je suis là pour vraiment écouter vos avis. Si c'est constructif, je le prendrai en compte et ça me permettra d'évoluer le podcast et de m'améliorer tout en vous proposant vraiment des émissions d'une plus grande qualité. Si vous avez aimé le podcast, vous pouvez également me le dire sur Twitter ou en commentant l'épisode et en le notant. C'est à peu près tout, j'espère que cette saison 2 vous plaira, j'espère que ce nouveau format vous plaît et est plus agréable à écouter. En attendant, on se donne rendez-vous dans quelques temps, je ne sais pas quand, pour un futur dossier qui ne sera peut-être pas lié à l'actualité, nous verrons. En attendant, vous pouvez toujours me retrouver sur Twitter pour prolonger le débat en tapant DLP Podcast dans la barre de recherche Twitter. Vous me trouverez assez facilement. C'était donc un podcast qui vous est présenté par Daily Disneyland. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses jusqu'au prochain podcast et à bientôt. Shine.